Ça fait maintenant un an et demi que nous avons créé notre association Au Secours Saulnois, qui a pour objet d'agir pour que la ressource en eau soit gérée et protégée dans l'intérêt général et le souci des générations futures. J'insiste sur le souci des générations futures.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Dieuze, en Moselle. Non à l'embouteillage.
Voilà, donc nous avons profité de la journée mondiale de l'eau pour vous réunir et vous fournir le maximum d'informations concernant notre action et faire barrage à l'implantation d'une usine d'embouteillage. Notre eau à nous.
Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, l'association Au Secours Saulnois,
notre bien commun,
vous propose non à l'embouteillage. Exigeons une eau de qualité au robinet. C'est le 23 mars 2024 à Dieuze. Rendez-vous à 14h au club des retrouvailles.
Ben normalement, on se casse une croûte avec eux, ils vont nous préparer quelque chose. Puis on essaye de mettre en place la table ronde de cet après-midi.
Donc tu connaissais déjà Dieuze, c'était une coïncidence.
Ah oui, j'ai passé mon bac à Dieuze, et puis ensuite j'ai fait mes études à Nancy, où j'ai rencontré René-Lise qui venait d'Italie.
Moi je suis Bernard Schmitt, né à Dieuze en 1952. J'ai pris ma retraite à Vittel parce que j'avais épousé une vitelloise. Et à Vittel, on a été sensibilisé par le sujet de l'eau avec Nestlé. Et j'ai découvert qu'il y avait des gros problèmes d'eau à Vittel, ce que personne ne savait. Enfin, seuls les gens un peu initiés étaient au courant. Et donc, on a monté clairement un combat pour essayer de contenir déjà la société Nestlé dans ses volontés d'expansion. Je crois qu'on y a assez bien réussi sur le plan médiatique. Hein, et aujourd'hui, ils sont empêtrés dans des tas d'affaires, quoi. Y compris les trafics sur l'eau qu'on a vu récemment.
Justement dévoilé par la cellule d'investigation de Radio France et Le Monde. Hein.
C'est essentiel. On savait pas qu'il y avait des gens qui travaillaient, et c'est très bien.
C'est là, en effet, que se situe la source qui alimente l'usine de mise en bouteille Vittel. L'eau y est censée être pure et c'est ce qui donne le droit à la marque de la vendre comme minérale. Seulement voilà, il y a quelques jours, la cellule d'investigation de Radio France et le journal Le Monde ont révélé que cette eau était en fait traitée pour lutter contre divers types de contamination, au même titre que l'eau du robinet. Il s'agit donc d'une véritable arnaque de la part du groupe Nestlé qui détient Vittel. Marie Dupin, journaliste à France Info qui a mené l'enquête, nous raconte comment tout a commencé.
L'enquête de Marie Dupin est à retrouver sur la page de la cellule d'investigation de Radio France et dans le journal Le Monde sous la plume de Stéphane Foucard. Je cite « Un tiers au moins des marques françaises sont concernées, dont celle de Nestlé qui a reconnu ses pratiques. Informé depuis 2021, le gouvernement a assoupli la réglementation dans la plus grande discrétion », fermez les guillemets. La France est la championne du monde de la mise en bouteille, plastique, d'eau minérale. Premier producteur mondial avec 40% du marché. Cocorico, faut pas gâcher la médaille d'or bleu, même si c'est une ressource vitale qui est en jeu, un bien commun accaparé par les géants du marché juteux de l'eau en bouteille, dont la pollution par les nanoparticules de plastique a été révélée le 9 janvier 2024 dans une revue scientifique américaine. N'en jetez plus, prenez un verre d'eau fraîche au robinet. Mais j'oubliais la pollution au plastique générée par toutes ces bouteilles commercialisées et sur les sites d'embouteillage à Volvic et à Vittel par exemple. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Pour l'instant, on retourne à Dieuze. Alors ça, Bernard, c'est le contexte, mais ici, il y a un problème particulier.
Ici, un problème
Dieuze,
particulier.
Hein, c'est ça, ouais.
Voilà, on est à Dieuze, effectivement, en Moselle. Et le problème particulier, c'est qu'on est au-dessus d'une nappe qui contient beaucoup d'eau. C'est la nappe des Grès. On appelle ça la nappe des Grès vosgien, parce qu'elle est alimentée par le massif vosgien. Et il se trouve que la municipalité veut donner l'autorisation au groupe Leclerc, par rapport à une filiale qui s'appelle Aquamark, de monter une usine d'eau, une usine d'embouteillage à Dieuze. Et donc, j'ai été contacté par des gens qui ont monté un collectif contre cet embouteillage, des gens que j'ai connus à l'école quand j'étais gamin ici. Donc, ça m'a fait plaisir de les retrouver, puis de soutenir leur combat, parce que tout ce qui tourne autour de l'eau, notamment dans le Grand Est, on essaye d'être solidaire de ces luttes-là. Je pense à Bure, je pense à Stockamine, en Alsace, etc. Mais pas que. Et dès qu'il y a des gros problèmes d'eau, je pense aussi à Sainte-Soline, effectivement, on court soutenir les gens, comme ils sont venus nous soutenir à une époque. Et puis nous, on est collectif eau, et on vient de monter une coalition stop embouteillage qui demande d'arrêter l'embouteillage de l'eau et sa commercialisation. Hein, on est sur une logique de financiarisation, de privatisation de l'eau, et ça c'est insupportable compte tenu notamment de l'époque du changement climatique, des problèmes de biodiversité, etc. Donc c'est un devoir pour nous de nous battre contre ça.
Donc je vais vous présenter nos invités intervenants pour l'après-midi. Bernard Schmitt, porte-parole du collectif Eau 88 et président de Vosges Nature Environnement. Joël Josseau, représentant de la coordination Eau Île-de-France et de Eau Bien Commun France. Vanessa Charlotte, de la coordination Eau Île-de-France et qui travaille sur le projet des universités bleues. Édouard de Féligonde, une victime de Danone à Volvic et donc de son pompage d'eau. Franklin Frédéric, écrivain militant environnemental au Brésil et résident en Suisse. Et enfin, Maïté Muscat, présidente de Lorraine Nature Environnement.
Bonjour à tout le monde. Oui, je suis donc la coprésidente de Lorraine Nature Environnement. Nous avons une coprésidence et non pas une seule tête. Voilà, Lorraine Nature Environnement est donc une association de protection de la nature et de l'environnement qui regroupe des associations de toute la Lorraine, des quatre départements lorrains. Donc nous avons 61 associations affiliées, dont Vosges Nature Environnement, dont Au Secours Saulnois depuis peu de temps. Voilà, nous sommes ravis de les accueillir, car nous considérons effectivement que l'eau doit être un bien commun qui ne saurait être privatisé et qu'elle est nécessaire au maintien en bon état de tous les écosystèmes.
Alors, Dieuze, Saline Royale. Oui. Donc c'était le pays du sel, c'est pour ça que c'est le pays saulnois, c'est ça ?
C'est ça. Il y avait de l'exploitation du sel depuis, je crois, l'an 800. Les dernières mines de sel, telles qu'on les avait à Dieuze, c'était 1960. Toute la richesse du secteur s'est faite autour du sel à l'époque.
Alors ancienne garnison militaire, hein ?
C'est ça, 13e RDP, régiment de parachutistes. Ouais. Et c'est avec la petite manne financière et les indemnisations suite au départ du régiment qu'il y a eu ces projets d'usine d'eau et qu'on a commencé à faire des forages.
C'est l'extractivisme de l'or bleu, quoi, c'est ça.
Tout l'objet de la convoitise, c'est de la toute petite cabane là.
Non, cette petite cahute en bois là.
Et c'est le forage.
Qui est voilà, enclos dans un petit grillage improbable.
C'est ça.
On dirait une cabane de jardin, quoi. Voilà. Et ça, c'est un puits, donc qui va chercher à plus de 700 mètres.
Ouais, 750 mètres. Voilà, le trou est déjà là, mais il faudrait pas d'usine.
D'embouteillage.
C'est ça.
Et c'est intéressant que les techniques d'exploitation de l'or bleu sont les mêmes que les techniques d'extraction de pétrole. On creuse les puits. Les techniques qui ont été développées dans un cas, on utilise dans l'autre.
Alors, c'est Franklin ou Franklin ?
Franklin, c'est en français, Franklin. Hein, mais en réalité, c'est Franklin. Je suis brésilien, j'habite en Suisse depuis 2009. Je suis arrivé en Suisse justement à cause de notre bataille contre Nestlé au Brésil. On a pensé au Brésil que c'était important d'attirer l'attention de l'opinion publique suisse pour ce qui se passait au Brésil avec Nestlé, c'est leur compagnie. Hein. Et un moyen de les toucher, un des moyens, c'est toucher leur image. Parce que l'image d'une telle compagnie, elle est très très chère. À l'époque, il était facile parce qu'il s'est passé une histoire semblable en Suisse même. Nestlé a essayé de s'accaparer des sources d'eau d'une ville, d'une petite ville suisse qui s'appelle Bevey, dans les cantons de Neuchâtel. On peut mettre au clair que les cas sont toujours les mêmes. Il n'importe pas que ce soit Nestlé, Danone, les modus operandi, hein, comme on dit, hein, c'est la façon d'opérer, c'est toujours la même. Ça s'accaparer des sources locales. On dit toujours au commencement, ça va créer aucun problème. C'est clair. C'est clair qu'on dit que ça va créer aucun problème. Mais ça crée des problèmes toujours. Parce que la logique du capitalisme, c'est la logique d'extraction et de faire du profit. L'eau est la marchandise parfaite. Tout le monde en a besoin. Et c'est pour ça qu'on doit lutter pour qu'elle ne soit pas marchandisée. Mais comment faire pour que la marchandise idéale ne soit pas marchandisée? C'est une lutte incroyable. Hein? Et ça va s'empirer, je crois. Les changements climatiques, au-delà d'être une réalité, on sait qu'une des caractéristiques principales du changement climatique, c'est de casser les cycles hydrologiques. L'eau à boire deviendra de plus en plus une ressource peut-être rare. Donc, on va essayer d'y mettre un prix, de faire du profit là, avec ça. On compte sur
la raréfaction de l'eau comme une ressource pour la donner un prix. Ça, c'est absolument
pour la mettre clair. En bouteille et la commercialiser, par exemple.
Par exemple, oui. Il faut que la lutte contre l'embouteillage soit parallèle à la lutte pour soutenir les réseaux d'eau publique. Parce que l'industrie de l'eau en bouteille, elle voit l'eau de robinet comme une compétition. Donc, elle essaie de la délégitimer. On voit dans les publicités, ah, c'est beaucoup mieux que les roues de robinet, c'est l'eau cristalline. On dit ces choses. Et les gens achètent cette vérité et préfèrent d'acheter de l'eau en bouteille que de boire de l'eau de robinet. Et ça augmente toute cette pollution plastique qui est énorme. Vous avez la sorte en France que vous avez déjà un mouvement qui date plus de 20 ans des remunicipalisations de la gestion d'eau. Hein. Vous êtes à l'avant-garde de cette lutte. C'est important, ça. Et la lutte contre l'embouteillage d'eau en France a une dimension symbolique, à mon avis, d'une énorme importance. Il faut se souvenir que c'est en France qu'a commencé l'embouteillement en plastique. Justement à Vittel, c'était le premier endroit au monde qu'on a commencé à embouteiller en plastique. Et c'est grâce au plastique, cette nouvelle technologie, que le commerce de l'eau embouteillée a plus gagné la planète. Parce qu'auparavant, c'était un verre. Les verres, c'est trop lourd, ça se casse. On ne peut pas avoir un commerce de cette dimension embouteillé en verre. Les plastiques étaient nécessaires. Donc, le commencement de la pollution plastique au monde a commencé, on peut lui dire, depuis Vittel. Donc, finir ici, que le commencement de la fin, qu'on gagne cette bataille en France, c'est énorme, c'est une deuxième révolution française.
C'est bien tôt demain.
C'est la prise de la Bastille des temps modernes.
Antoine Chao sur France Inter.
Alors Edouard, t'es venu à Dieuze aussi hein, pour participer à cette rencontre publique, hein, on va l'appeler comme ça, sur l'implantation d'une usine à eau. Hein. C'est quand même incroyable hein, d'appeler ça comme ça, une usine à eau. Pourquoi t'as voulu venir ici pour témoigner ?
Alors en premier lieu, parce que la France est le premier producteur mondial d'eau en bouteille, en détenant 40% du marché. Il y a une question morale. Marchandiser l'eau, c'est faire de la marge sur la vie. Sur un bien commun, je ne comprends pas comment des grands groupes peuvent mettre la main sur une ressource qui appartient à tous. Alors, effectivement, je subis un phénomène personnel à Volvic. Mais très vite, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est totalement général. Chez moi, à titre d'exemple, la dérive climatique est enregistrée depuis 1981. Comment se fait-il que, depuis 1993, alors que l'impluvium baisse, on est multiplié par 8 les prélèvements de Danone à Volvic. Comme les pompages n'ont cessé d'augmenter, on se retrouve maintenant avec une ressource qui a baissé de 66%. Là, rien qu'à Volvic, une société qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, va distribuer 70 millions d'euros de dividendes, c'est-à-dire à Danone, et qui ne paye pour la ressource que 3,5 millions. Mais c'est fou, et un bien commun. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez tous les acteurs locaux qui sont en arrêté sécheresse, on nous demande de nous restreindre, et pendant ce temps-là, vous avez le groupe Danone qui n'est pas restreint. Vous voyez 300 à 350 camions par jour, plus 80 wagons de train défiler sous vos yeux tous les jours. Cette situation ne peut pas durer. Donc moi je suis Edouard Féligonde, j'ai dans le contrebas de Volvic la chance d'avoir les vraies sources de Volvic. Alors d'ailleurs je tiens à prévenir l'ensemble des auditeurs que Danone fait visiter une source qui s'appelle la source de Volvic en payant. Vous avez une fréquentation de 80 000 personnes par an et ils vont visiter une source qui n'existe pas. Les vraies sources sont des sources de fonds de coulée. Et ils peuvent venir les visiter chez moi, à sec, malheureusement, mais ils peuvent venir les visiter chez moi gratuitement.
Je viendrai alors.
C'est vachement agréable cette maison.
Hein. Ouais.
Notre région, ça, cette bestiole-là. Alors, c'est un des emblèmes de Metz, en fait. Ça s'appelle le Graouli.
D'accord. Alors présente-toi.
Moi ?
Ouais.
Bah, Maxime Noirjean. Voilà, militant. Anti-embouteillage à Dieuze. Donc le collectif local et la coalition Stop Embouteillage qui a pour but de réunir tous les collectifs locaux contre l'embouteillage de la flotte. pour l'instant français et on espère européen bientôt.
Alors Maxime, j'aimerais bien te demander, moi, profiter du petit café là du matin.
Ouais.
C'est toi qui animais hein, la journée hier, la rencontre. Comment tu vois les choses, toi? Comment tu les analyses après?
Ah oui, pour moi, c'était un échange avec... Le but, c'était un échange avec la population, avec des gens qui étaient en face, comme Franklin, comme Bernard, qui ont leur expérience, hein, un recul sur tout l'embouteillage. Donc on voulait vraiment cet échange avec la population dieuzoise et du secteur, oui.
Alors quel bilan t'en tire? Il y avait des élus qui étaient là, qui ont défendu Mordicus, hein, cette usine d'eau, parce que des investissements sont déjà faits, bon, ils n'en démordent pas.
Non, ils restent arc-boutés sur leur position. Après, c'était aussi le jeu de la journée, qui est un échange avec la mairie, et puis que chacun puisse s'exprimer aussi, ça fait partie de la démocratie. Alors après, on voit bien que les gens qui étaient là quand même dans la salle, hormis les élus, c'était quand même des gens qui étaient quand même déjà acquis à notre cause. Voilà. Mais je pense qu'on a permis de leur répondre un petit peu plus loin dans les interrogations sur le projet d'embouteillage de la flotte. Le tout, c'est que la population soit correctement informée par rapport à ce projet et aux répercussions de ce projet. Et je pense que c'est ça le plus dur, en fait. Donc là, on avait une centaine de personnes, mais sur une braderie, on a fait signer des pétitions en 4 heures de temps. On a eu 300 signatures de gens du bassin de Dieuzois. Hein, c'est vraiment des gens qui se sentent complètement concernés. 4 heures, 300 signatures pour Dieuze, c'est déjà bien. Ça veut dire que l'information est utile et qu'il faut continuer à la faire.
Merci à Bernard Schmitt, Maxime Noirjean, Franklin Frédéric, Édouard de Féligonde et Maïté Muscat. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.